L'invité de la rédaction ce mardi 18 novembre, Souhil Al-Hashmi, qui reçoit le directeur général des collectivités locales au ministère de l'Intérieur, Azdine Belkacem Nasser. Madame, monsieur, bonjour, c'est à vous.
Bonjour, monsieur Azdine Belkacem Nasser, bonjour.
Bonjour.
Alors, nous allons aborder ensemble la question de la gestion participative des citoyens dans la gestion de leur cité. Une commission intersectorielle composée de 20 ministères, des élus et associations a été installée la semaine dernière. Des ateliers vont débuter leurs travaux aujourd'hui sur 3 thèmes centraux. On parle de promotion et culture de la gestion participative, 2, le droit à l'accès à l'information des citoyens, et 3, formation et organisation citoyenne. Ce sont des actions stratégiques et primordiaux pour le ministère de l'Intérieur aujourd'hui, puisque vous mettez un peu aujourd'hui cette préoccupation au cœur de l'action engagée.
Absolument, c'est au cœur de l'action du ministère de l'Intérieur, d'autant que plusieurs chantiers sont lancés, comme vous le savez, et qui consistent à aller de l'avant, tant du côté de ce qui concerne la modernisation et l'amélioration du service public que de l'approfondissement de tout le processus lié au développement local. Donc effectivement, c'est une démarche qui s'inscrit dans le vaste programme inscrit au titre du ministère de l'Intérieur.
Votre objectif, consolider ou renforcer la confiance citoyen-élu?
Oui, alors c'est les deux à la fois en fait, hein. Parce que la confiance, évidemment, la relation existe entre les citoyens et l'administration. Il s'agit tout simplement, il s'agit de la renforcer, de la consolider, parce que ça devient une affaire effectivement importante pour permettre d'accompagner le processus du développement. Le développement, en fait, concerne toutes les franges, si vous voulez, de la société, les opérateurs, les institutionnels, mais aussi et surtout le citoyen. Parce qu'en fait, c'est le citoyen qui constitue, si vous voulez, le réceptacle de tout le développement économique, social et culturel. C'est au niveau de l'espace de proximité dans lequel vit le citoyen que la perception du développement se fait sentir avec le plus d'acuité.
Mais gestion participative, est-ce à dire que le citoyen aujourd'hui doit avoir le droit de regard sur toutes les questions qui concernent sa commune, à savoir la gestion financière, le développement de sa commune, la répartition et l'attribution des logements, surtout,
il doit s'appliquer sur absolument surtout. Il sera associé dans le sens où, comme vous le savez, il existe évidemment la démocratie représentative. Alors la démocratie participative, elle n'est pas là pour concurrencer ni pour se substituer à la démocratie représentative. Les deux sont en fait parfaitement complémentaires. Et j'ajouterai le fait que un système de démocratie participative a des chances d'être pérenne lorsque toutes les mesures qui sont décidées sont acceptables par la majorité des citoyens et qu'elles vont dans le sens du bien commun. En fait, c'est dire que la finalité, si vous voulez, du développement, c'est l'homme. C'est le fait d'aller vers la satisfaction de ses aspirations, la satisfaction de ses multiples besoins, quelle que soit, si vous voulez, sa localité. Et c'est pour aussi appuyer le fait que ce développement s'appuie sur les préoccupations du vécu quotidien de ce citoyen à travers son espace immédiat que représente son quartier, son agglomération, sa commune.
Mais est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, au ministère de l'Intérieur, vous jouez la carte de la transparence?
Oui, absolument. Plus que jamais, vous savez que cette démarche est initiée par Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, appuyée par Monsieur le Premier ministre dans une démarche rénovée pragmatique et qui traduit en fait la volonté de Monsieur le Président de la République qui a, si vous voulez, réitéré lors du premier conseil des ministres suite à sa réélection, il a réitéré son engagement à mettre en œuvre son programme électoral. Et il a évidemment invité le gouvernement à décliner le contenu de ce programme en plan d'action à travers essentiellement le renforcement de la démocratie participative et la bonne gouvernance. C'est dire que la volonté politique est là et plus que jamais. J'ajouterai le fait que le président de la République a souligné même qu'il s'agit de livrer une véritable course contre le temps pour mettre en place, si vous voulez, les instruments qui permettront de répondre aux attentes de la population et notamment de la jeunesse dans la rencontre qui est prévue très bientôt et dans la construction d'une véritable économie diversifiée et compétitive. Tout cela allant dans le sens, évidemment, de la promotion de la bonne gouvernance, de la lutte contre la bureaucratie, de la lutte contre la corruption sous toutes ses formes et afin d'améliorer sensiblement à tout ce qui a trait au service public. Bien sûr que tous les secteurs d'activité, n'est-ce pas, sont impliqués. Parce que finalement, la démocratie participative, si vous voulez, sans aller jusqu'à chercher un petit peu ces soubassements théorico-historiques, c'est tout simplement en deux mots, un ensemble, tous les dispositifs, tous les instruments, toutes les procédures qui permettent, si vous voulez, d'impliquer réellement et concrètement le citoyen dans la vie publique et aussi lui permettre d'accomplir son rôle dans les prises de décision à différents échelons.
Mais si on place cette question au cœur de la stratégie du plan de développement quinquennal, est-ce à dire que la confiance est rompue aujourd'hui? Puisqu'on a vu, dès qu'il y a par exemple distribution de logements, il y a contestation et il y a aussi manifestation.
La confiance n'est pas rompue, la confiance tout simplement appelle à plus de consolidation et à lever évidemment beaucoup de malentendus, d'incompréhensions. Et c'est pourquoi d'ailleurs, lorsque il a été question d'installer ce groupe de travail, les trois groupes qui ont été installés, justement, vont dans le sens de permettre sensiblement et de manière concrète l'implication de ce citoyen et de façon à justement à consolider cette confiance entre le citoyen et l'administration. Vous avez vu un petit peu l'intitulé des trois groupes. Si on prend le premier groupe, notamment, le premier atelier qui porte sur la promotion et l'enracinement de la culture de la participation citoyenne dans la gestion des affaires publiques. Là, il s'agit essentiellement de bâtir une véritable culture de l'écoute mutuelle, culture du partage, pour permettre de transcender tous les malentendus, toutes les incompréhensions qui peuvent survenir. Et donc, c'est important, si vous voulez, de le faire à travers un réflexe, un exercice pédagogique, si vous voulez, mais qui a beaucoup de chances, évidemment, de réussir, parce que, vous savez, le citoyen il ne cherche qu'à échanger, n'est-ce pas ? Et à pouvoir un petit peu présenter un petit peu ses préoccupations de la meilleure manière possible.
Mais est-ce qu'on n'est pas là dans un principe de thème générique quelque part?
Oui, bien
sûr. Est-ce qu'il faudrait aussi aller vers leur application sur le terrain? Puisque dans le code communal actuel, il est inscrit que les assemblées communales sont ouvertes aux citoyens qui peuvent y participer, que les délibérations sont automatiquement aussi publiques puisqu'elles sont affichées et les citoyens ne s'impliquent pas. Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer déjà par appliquer l'existant pour aller vers plus?
Absolument, absolument. En fait, les conditions doivent être réunies pour que cette application se fasse et c'est le moment et il n'est jamais trop tard. Il faut au contraire, vous savez que l'application des lois se fait de manière un peu différenciée. Il ne faut jamais aller jusqu'au boutisme pour dire que jamais telle ou telle disposition n'a été appliquée. Ça dépend des situations. Mais vous avez raison de souligner que l'ancrage juridique existe puisque pas moins de 14 dispositions sont là et qui sont contenus aussi bien dans le texte fondamental que constitue la Constitution, mais aussi dans les lois relatives à la commune et à la wilaya. Donc l'ancrage juridique est là. Il s'agit bien sûr de réfléchir aux modalités d'enchaînement, de déclinaison opérationnelle à travers des textes d'application qui permettront justement d'enraciner cette culture, la gestion participative.
Alors justement, à propos de cette question, vous réfléchissez, vous travaillez, il y a les trois ateliers qui commencent à travailler dès aujourd'hui. Vous parlez de modalités d'application. Est-ce qu'on va aller vers, c'est-à-dire, des textes réglementaires qu'on va devoir légiférer, donc une révision éventuelle du code communal?
Éventuellement, les trois groupes, les trois ateliers vont s'y atteler pour justement réfléchir sur les meilleures modalités, les meilleurs moyens d'y arriver. Rien n'est exclu, évidemment. L'essentiel, la finalité, c'est de pouvoir mettre en application et de manière raisonnée, pragmatique, cet ensemble de dispositifs sur le terrain.
Donc une révision du code communal n'est pas à écarter.
C'est une révision du code communal qui tiendra compte, bien sûr, que de ce qui sortira un petit peu de ces ateliers. Et en tout cas, c'est l'essentiel, c'est d'aller dans le sens de cette participation effective du citoyen.
Évidemment. Monsieur Azdin Belkacem Nasser, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous, on revient dans deux petites minutes. À tout de suite. Alors, monsieur Azdin Belkacem Nasser, beaucoup de questions pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. On a parlé de l'enracinement de la culture de la gestion participative, des trois ateliers qui sont en train de travailler pour sortir avec des recommandations qui pourrait peut-être prendre forme ou force de loi, ça dépendra. Vous n'avez pas écarté l'éventualité d'aller vers une révision du code communal actuel. Mais est-ce qu'on peut considérer que cette gestion pourrait avoir lieu quand parallèlement vous avez des communes qui disent que nous avons des difficultés de gestion et de financement?
Oui, en fait, vous avez raison de mettre le doigt sur la cellule de base que constitue la commune. Mais là où également, on parlait de démocratie représentative et de démocratie participative complémentaire, justement, permettre à la commune d'accomplir son rôle dans les meilleures conditions consiste à justement assurer cette passerelle entre les deux types de démocratie, parce qu'en fait, les élus font un petit peu leur travail et ils ont bien sûr leur programme d'action, mais la réussite, si vous voulez, de leur programme d'action est largement conditionnée par l'implication de ces citoyens. En fait, ce n'est pas une question tout à fait de moyens. C'est une question qui relève beaucoup plus d'une meilleure nécessité, d'une plus grande nécessité d'assurer la synergie entre les élus et l'administration. Donc les communes, évidemment, si la commune se porte bien, donc tout l'édifice va pouvoir bien sûr avoir, si vous voulez, des résultats probants en matière d'action des collectivités locales.
Mais vous dites que ce n'est pas un problème de financement. Mais vous avez certaines collectivités qui sont riches, certaines sont pauvres, par rapport à la répartition de la fiscalité locale. Est-ce que cette question pourrait être révisée également, puisque certaines sont extrêmement riches et d'autres aussi pauvres parallèlement?
Oui, en fait, je parlais tout à l'heure un petit peu du dispositif, de l'ensemble des chantiers qui sont menés actuellement par le ministère de l'Intérieur, entre autres la nécessité de consolider le processus de développement local. L'année 2015, Monsieur le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales l'annonce comme étant l'année du développement local. Et effectivement, ça nécessite, si vous voulez, de réfléchir à une meilleure consolidation des moyens. Mais les moyens sont là. Attention, les moyens, je peux vous annoncer que pour l'année 2015, 100 milliards de dinars sont déjà consentis pour permettre le fonctionnement dans les meilleures conditions des plans communaux de développement. Vous avez effectivement le fonds commun des collectivités locales qui va se transformer en caisse à partir de janvier, justement pour permettre une meilleure dotation aussi bien des sections d'équipement et de fonctionnement et dans leur volet solidarité et garantie, pour justement corriger davantage. Mais j'insiste sur le fait que c'est une prise en charge des projets et des programmes de manière plus planifiée, coordonnée, qui reste à faire. Et c'est pourquoi le citoyen pourra, si vous voulez, dans un esprit d'anticipation, contribuer grandement à la mise en œuvre de ces plans communaux de développement et de tout le dispositif qui permettra de financer les projets.
C'est-à-dire, quand il s'agira de réaliser un marché, il peut s'impliquer et donner son avis. Quand il s'agira, par exemple, de réaliser des routes, il peut intervenir au niveau de sa collectivité pour donner son avis. Pour des espaces verts également, c'est ce que vous voulez dire?
Absolument.
Exactement.
Pour un ensemble d'actions de ce type, effectivement, le citoyen est appelé à donner son avis, à éclairer. Je peux en fait citer quelques exemples qui sont là quand même. Vous avez par exemple au moins deux ou trois exemples. Le premier exemple, c'est celui de la commune de l'Atof au niveau de la wilaya de Reldaya. où il y a des comités participatifs qui sont constitués
et qui sont très actifs aussi.
Très actifs et qui sont en fait très très actifs sur des thématiques spécialisées des fois et qui font intervenir des spécialistes et qui apportent beaucoup beaucoup si vous voulez un petit peu à la vision en matière d'élaboration des projets au niveau de la commune. Vous avez évidemment l'expérience de Coville, comité des villes de la ville d'Alger, qui a un caractère disons plus large parce qu'elle a fait intervenir aussi des opérateurs économiques. Je citerai juste tout récemment une initiative fort louable qui a été lancée par la wilaya de Taf qui consiste à se rapprocher des citoyens en mettant à leur disposition une boîte à idées. Ça s'appelle comme ça. Voici un petit peu un exemple parmi tant d'autres.
Mais ils sont très peu ces exemples.
Oui, il faut multiplier, il faut assurer un petit peu la diffusion de l'information, parler de ce groupe justement qui va s'occuper de ça.
Mais est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui la commune a le pouvoir de décision pour la réalisation de marchés puisque tout est centralisé au niveau ministériel? Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi décentraliser la décision au niveau local puisque la commune est le premier vis-à-vis du citoyen?
Oui, absolument.
Est-ce qu'on n'a pas réduit les prérogatives des communes à telle enseigne qui ne servent quasiment plus à rien?
Oui, dans les actions qui sont programmées, il y a effectivement ce souci d'aller vers une meilleure décentralisation, plus de décentralisation, mais il faut savoir aussi que la commune dispose des prérogatives qui sont les siennes. C'est-à-dire, je parlais tout à l'heure de toutes les actions de proximité. Quand il s'agit effectivement de projets qui sont, si vous voulez, structurants, la commune, bien sûr, constitue dans tous les cas le réceptacle, mais son niveau de responsabilité est tout autre. Mais l'essentiel, c'est que le citoyen puisse avoir une certaine perception de ce qui est entrepris au niveau de sa commune, tout d'abord, et puis, pour les projets qui dépassent un petit peu le cadre de sa commune, qu'il ait un petit peu le sentiment d'avoir été consulté. C'est tout le souci, d'ailleurs, quand on dépasse le cadre de la commune, c'est le souci de la mise en œuvre de l'intercommunalité. Beaucoup de projets, notamment des projets qui ont un caractère structurant, se placent dans une optique d'intercommunalité. Tout ça doit être expliqué aux citoyens, parce qu'il s'agit, je répète, il s'agit d'aller coûte que coûte vers la systématisation de cette participation citoyenne à la vie publique. Il s'agit, je le marque avec force, d'une action qui se veut structurelle et non pas une campagne conjoncturelle. Parce que là, on a pris l'habitude un petit peu de consulter le citoyen juste à l'approche des échéances électorales et puis on oublie. Non, il faudrait que ça soit une action pérenne.
Mais cette exclusion est-elle à l'origine aujourd'hui des contestations que nous subissons au quotidien? Dès qu'il y a, par exemple, distribution de logements, vous avez des contestataires qui bloquent des routes, qui brûlent des pneus parce qu'ils contestent la liste. Cette implication va-t-elle permettre plus de transparence?
Évidemment, et c'est le but recherché parce qu'en fait, quand il s'agit d'informer à temps...
On veut mettre fin à ces contestations par la transparence?
Oui, bien sûr que... Alors très souvent, et on a beaucoup d'exemples, où ces contestations sont en fait le résultat, le fruit, sont quasi quotidiennes parce que c'est le résultat, le fruit d'incompréhension, de malentendus et de manque de circulation de l'information.
À telle enseigne que vous avez certaines wilayas qui refusent de distribuer les logements qui sont réalisés.
Oui, il s'agit tout simplement d'expliquer aux citoyens comment se fait la procédure et le citoyen va accepter. Alors l'information, puisqu'on a bien inscrit un atelier dédié au droit du citoyen à l'accès à l'information, parce que l'information, vous le savez autant que moi, l'information, il s'agit de d'assurer coûte que coûte cette transparence et cette fluidité de l'information avec la bonne mesure, parce que trop d'informations, n'est-ce pas, va tuer l'information, c'est contre-productif. Peu d'informations, ça entraîne bien sûr et ça alimente la rumeur, l'intox, etc. Mais en même temps, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup d'intermédiaires parce que les intermédiaires, la multiplication de ces intermédiaires va aller dans la déformation de l'information. Voilà.
Mais vous avez aussi un autre dilemme. On est face à un autre dilemme, ou deux du moins. Vous avez le maire qui vous dit, moi je ne suis pas responsable des listes qui sont élaborées puisque c'est fait au niveau de la daïra. Et l'affichage se fait au niveau de la commune. Et vous avez un autre dilemme, c'est celui où le citoyen vous dit, moi je ne m'implique pas parce que ce sont des gens qui ont des couleurs politiques qui ne viennent que pour s'enrichir. Comment un peu éradiquer ces ce type de comportement.
C'est une véritable stratégie de dialogue et de communication qui doit être mise en œuvre et qu'il s'agit d'expliquer. Le maire, le président d'APC ou le citoyen doivent tout simplement s'écouter et clarifier un petit peu tout le processus, qu'il s'agisse de distribution de logements ou de création d'emplois ou d'amélioration de services publics, de la voirie, de chemin, etc. En fait, c'est tout simplement prendre les choses en amont. Ne pas laisser les choses un petit peu se compliquer et empirer et puis aller vers des incompréhensions qui deviendraient insupportables. En somme, je pense qu'il s'agit de passer plus que jamais d'une communication qui a jusque-là un caractère beaucoup plus administratif. Une communication administrative a un véritable service public de l'information et de la communication. Autrement dit, comment permettre de délivrer cette information de manière régulière, simple et de manière factuelle.
Mieux améliorer aussi le service d'état civil, puisqu'il y a beaucoup d'efforts qui sont consentis aujourd'hui.
Absolument. Et voilà. Et c'est pourquoi plusieurs instruments sont mis à la disposition un petit peu du citoyen. Et ces recommandations, les recommandations des ateliers vont aller dans ce sens, puisque la mise en œuvre des TIC sera bien sûr mise fortement en exergue pour permettre aux citoyens d'être informés avec tous les autres instruments accompagnant ces TIC, en l'occurrence les sites web, le numéro vert, les réseaux sociaux, etc.
Monsieur Azdin Belkacem Nassar, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci, à bientôt.
Merci beaucoup.
À vous. Merci. Merci,
au revoir. L'invité de la rédaction vous a été proposé par Algérie Télécom.